les centres d'information Europa Direct s'adressent à tous les citoyens et font office d'intermédiaires entre eux et l'Union européenne au niveau local. Reconnu comme centre d'information depuis 2007, la Maison de l'Europe en Mayenne vous propose cette émission sur l'autre radio. Instant Europe.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Instant Europe réalisée en partenariat avec la Maison de l'Europe de la Mayenne. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la crise ukrainienne et de l'élargissement de l'Union européenne. Cette question est essentielle alors que Volodymyr Zelensky demande actuellement une accélération dans le processus d'adhésion à l'Union européenne concernant l'Ukraine dans ce contexte de guerre avec la Russie. Je pense qu'il sera intéressant de revoir historiquement comment s'est créée l'Europe, avec quelles valeurs, quels objectifs et quels sont les enjeux aujourd'hui d'un potentiel élargissement de l'Union européenne. Et donc pour aborder ces questions, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Sophie Envoin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission à la Maison de l'Europe de la Mayenne et à vos côtés Michel Ferron. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes l'ancien président de la Maison de l'Europe en Mayenne, vous l'avez été durant deux mandats, et aujourd'hui vous êtes le secrétaire général de la Fédération française des Maisons de l'Europe.
C'est bien ça.
Nous avons le plaisir aussi d'avoir au téléphone avec nous Yulia Kulibabchuk. Vous étiez professeur d'anglais et d'allemand, et plus récemment volontaire dans le cadre du Corps européen de solidarité à la Maison de l'Europe de Nîmes. Bonjour Yulia.
Bonjour à tous.
Alors peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le Corps européen de solidarité? Quelles sont ses missions et quel type d'action de solidarité est-ce qu'il propose?
Alors le Corps européen de solidarité, c'est un dispositif de l'Union européenne qui a été créé pour les jeunes entre 18 et 30 ans pour s'engager dans des missions d'intérêt général, un peu type service civique. Donc ça peut être par exemple aller sauver des tortues de mer en Grèce, sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en Italie. Enfin, il y a tout type de mission, mais il faut toujours que ça soit d'intérêt général. Et voilà, on peut faire un CES dans tous les pays de l'Union européenne, mais il y a aussi des pays partenaires tels que les pays du Maghreb, Balkans, Ukraine, Russie et Norvège.
Et alors, c'est une durée d'à peu près combien de temps ?
Il y a des courts termes entre 2 semaines et 2 mois, et des longs termes à partir de 2 mois jusqu'à 1 an.
Et alors, est-ce qu'il y a des critères peut-être pour y participer ?
Eh bien, le critère premier, c'est la motivation. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de langue excellent ni un niveau d'études, puisque c'est censé être ouvert à toutes et à tous.
Et alors, vous, Yulia, vous avez donc été volontaire dans le cadre du Corps européen de solidarité à la Maison de l'Europe de Nîmes. Donc, vous étiez, vous, en France. À quel type d'action de solidarité avez-vous été volontaire ?
Alors, je suis venue pour longtemps, c'est volontariat de 12 mois. Et j'étais en dehors parce qu'à la Maison de l'Europe de Nîmes, ils ont 11 volontaires. Mais moi, j'étais volontaire en bureau avec toutes les équipes. Et les autres volontaires ont été des autres associations et lycées, collèges, l'université. Mais moi, j'étais chargée de la communication et un petit peu de la mobilité et animation avec ma tutrice et une chargée d'animation. En général, j'ai animé des réseaux sociaux avec le site web de la Maison de l'Europe. Ensuite, j'ai parlé aux jeunes sur les programmes de mobilité européenne. C'était aux écoles, aux universités, mais aussi à la Maison de l'Europe parce que nous avons un événement, ça s'appelle Réunion d'enfants. Ensuite, nous avons beaucoup d'activités avec les enfants, les adultes, au sujet de l'Europe, parce que nous avons Erasmus Days, Joli Mois, Atelier de Noël, il y a beaucoup des événements comme ça. Ensuite, c'était aussi très nécessaire pour moi pour soutenir et animer les ateliers comme Café Multiculti, Café Linguistique. Café Multiculti, c'est au sujet de la culture des pays de tous les volontaires.
D'accord.
Alors moi, j'ai présenté l'Ukraine. Et Café Linguistique, c'est pour parler les langues étrangères, pratiquer, améliorer pour tout le monde, et c'était toujours gratuit.
Et donc dans cette expérience, oui. L'idée est vraiment de faire du lien, d'amener, de créer un croisement des cultures également?
Oui, c'était général culture, oui. Et, parce qu'il y a beaucoup de volontaires d'autres pays. Et c'était toujours un change culturel, mais pas juste culturel, c'est interculturel, oui.
D'accord. Et donc, votre volontariat s'est terminé quand?
C'était 26 août.
Le 26 août. Et donc, suite à cela, donc vous nous l'avez dit, vous êtes de nationalité ukrainienne. Ce volontariat vous a permis de rester en France par la suite dans le contexte actuel?
Oui, j'ai pas resté parce que oui, il y a les conditions spécifiques pour tous les Ukrainiens et nous avons les permis pour travail, pour habiter en France, oui, pour tous. C'est plus facile maintenant.
Et donc, dans ce contexte, le processus d'adhésion, on en parlait tout à l'heure de l'Ukraine pour rejoindre l'Union européenne, le processus habituel met plutôt à peu près une dizaine d'années, au moins une dizaine d'années pour les derniers pays qui ont pu rejoindre l'Union européenne. Je vous propose peut-être dans un premier temps, pour traiter donc cette question de l'élargissement européen en lien avec la crise ukrainienne, dans un premier temps de revenir en arrière à cette création de l'Union européenne. Est-ce que l'on peut rappeler peut-être quelles valeurs, quels objectifs étaient primordiaux au moment de la création de l'Union européenne?
Il est facile de remonter le temps, puisqu'il ne faut pas l'oublier. La communauté européenne est une structure politique relativement jeune, hein, tout au plus 70 ans d'existence. Donc l'historique est assez réduit. Mais alors, le contexte est connu, c'est l'immédiate après-guerre, hein. En 1950, lorsque Schuman fait sa déclaration, il s'inscrit dans un contexte de l'après-guerre. Donc l'Europe apparaît comme une structure qui va favoriser la paix, en tout cas la consolider. Et puis très vite, c'est sur le plan économique que se vérifie la nécessité de réunir plusieurs pays, très peu au départ, 6. Autour de, ça s'appelait d'abord déjà la communauté économique du charbon et de l'acier, donc c'est extrêmement économique, et puis peu à peu, donc ça va s'élargir. Alors, c'est d'autant plus intéressant que 70 ans plus tard, avec l'Ukraine, on s'aperçoit que l'Europe est toujours dans un contexte de guerre, et elle se montre, enfin elle s'affiche, comme un instrument de paix. Donc l'histoire continue. Alors, tout au long des 70 ans, il y aura bien sûr des élargissements successifs sur lesquels peut-être on pourra revenir, mais il faut bien reconnaître que ce sont des impératifs économiques qui vont peu à peu nécessiter qu'on élargisse la communauté avec, en tenant compte bien sûr de l'actualité politique.
Et du coup, vous venez de nous le dire un peu, au fur et à mesure du temps, donc on est parti de ce contexte de guerre et cette volonté de paix, cette volonté aussi d'union d'un point de vue économique. Au fil du temps, comment est-ce que ça s'est enrichi, ce processus-là?
Eh bien, je le disais tout à l'heure, et ça va être en plein dans le débat sur l'adhésion éventuelle de l'Ukraine, c'est que l'Union européenne est apparue de façon nette comme étant le rempart du monde libre. C'est-à-dire que il y a quand même des valeurs qui sont peu à peu affirmées sur l'état de droit, le respect des libertés démocratiques, et bien évidemment il y a eu un consensus qui s'est fait sur ces valeurs essentielles, qui sont parfois bafouées évidemment, et l'enjeu du soutien européen à l'Ukraine, c'est bien cela, c'est que l'Europe continue à apparaître comme étant justement l'union qui va permettre de sauvegarder, hein, la démocratie, l'état de droit face aux agressions extérieures. Et on est en plein dans la même actualité.
Et donc, la puissance de l'Union européenne aujourd'hui, si on veut résumer, donc c'est une puissance économique, une puissance de valeurs démocratiques et de solidarité entre ses pays membres, de soutien, comment on...
Oui, alors, il faut bien reconnaître que l'Europe est souvent réduite à un enjeu économique. Et on dit, l'Union européenne, c'est un géant économique, mais c'est un nain politique, parce qu'elle n'a pas de pouvoir réel sur le plan de l'action politique. Or, malgré tout, et il y a deux choses qui lui ont permis de faire un bond en avant extraordinaire, la crise du Covid et la guerre en Ukraine, si on peut dire. Dans la crise du Covid, l'Europe, qui n'avait pas de compétences sur le plan sanitaire, a réussi à mettre en place un plan de vaccination. Et il y a eu donc des avancées considérables et surtout a mis en place un plan de relance, de plus de 700 milliards destinés donc à justement, en quelque sorte, à compenser toutes les déficiences qu'avait causé la crise sanitaire. Et puis sur la guerre en Ukraine, le tournant spectaculaire, avant même les débats sur l'adhésion, c'est que pour la première fois, l'Union européenne, très peu de temps après le déclenchement de la guerre au mois de février, il y a maintenant près de 2 ans, s'est mise d'accord pour soutenir, non pas seulement verbalement dans des textes, mais soutenir avec des euros l'envoi des armes à l'Ukraine, alors qu'il n'y a toujours pas d'Europe de la défense. Et ça, il ne faut quand même pas l'effacer. Ça a été une avancée considérable. Donc, au pouvoir économique, s'est associée une dimension de plus en plus politique, et c'est ça que les Européens souhaitent, voir venir de façon plus décisive, c'est que l'Europe fasse entendre une voix et une décision qui pèse.
D'accord, et donc, par rapport donc, à notre lien à l'Ukraine, le lien de l'Union européenne à l'Ukraine, historiquement, parce qu'il y a déjà eu des enjeux avec la Russie, donc il y a eu déjà des questions qui se sont posées historiquement.
Oui, mais il y a surtout eu la volonté de l'Europe, déjà au moment de l'annexion de la Crimée, l'Europe s'était positionnée comme vigilante par rapport aux menées impérialistes de Poutine. Et de toute manière, il faut tempérer peut-être la bonne nouvelle de le Conseil européen. Donc hier, s'est mis d'accord sur l'ouverture de négociations pour faire rentrer l'Ukraine en Europe. C'est vraiment une formule très progressive puisque ça va prendre du temps. Et ceci a été obtenu parce que Orban, qui est un très mauvais élève dans l'Union, s'est donc abstenu et n'a pas pris part au vote. Mais il y a eu plusieurs avancées. Dans son dernier discours, Ursula von der Leyen, dans le discours sur l'état de l'Union, a abordé de façon très franche cette question. Et elle a bien précisé aussi que, c'est d'ailleurs des critères qu'on applique à tout pays candidat, il faut réunir un certain nombre de conditions. En particulier, il faut que l'état de droit soit respecté, il faut que la situation économique soit stabilisée, et surtout qu'il n'y ait plus de corruption. Or, l'Ukraine, bien avant les événements, et en plus depuis la guerre, ne peut pas se prévaloir des situations économiques très, très stabilisées, parce que ce n'est pas en temps de guerre qu'on arrive à obtenir des résultats économiques satisfaisants. Et en même temps, on le sait très bien, Zelensky le cache même pas, il y a toujours eu une activité de corruption importante. Donc il faut que l'Ukraine devienne bon élève pour pouvoir entrer. Mais au-delà de tous ces critères, il me semble que le message qu'envoie l'Europe hier avec cette décision est un message positif. C'est-à-dire qu'on entrevoit la possibilité pour l'Europe d'apparaître clairement comme celle qui défend le monde libre, hein, et qui veut surtout pérenniser ce rôle.
Et Yulia, vous, du côté, justement, en tant qu'Ukrainienne, vous suivez ces débats de près, j'imagine ?
Alors, pour moi, cette question est vraiment très difficile. Mais en général, oui, j'espère que nous avons le pain à l'avenir. Et après, nous pourrions être une partie de l'Europe parce que pour nous, toutes les valeurs de la démocratie, de stabilité, de la solidarité, c'est vraiment très proche pour tous les Ukrainiens. C'est pourquoi nous avons commencé cette discussion pour rentrer l'Union européenne avant la guerre. Mais ce n'était pas possible parce que l'Ukraine était un petit peu contrôlée par la Russie. C'est pourquoi nous avons la guerre en général. Et oui, c'est pourquoi je pense que oui, c'est notre futur d'être avec l'Europe ensemble.
Justement, on le disait, Zelensky demande rapidement un engagement juridique pour accélérer l'obtention d'un statut officiel de candidat à l'Union européenne. Quelles sont les conditions, on les a un peu rappelées finalement, pour devenir candidat, et l'Ukraine pour l'instant ne répond pas totalement à ces conditions.
Non, oui. Il y a une fragilité qui tient au contexte. Un pays en guerre, Ursula l'a dit dans son discours, parce qu'elle s'est rendue souvent à Kiev. Hein. Oui. Elle disait, il est temps de commencer à reconstruire avec l'Ukraine. Elle pensait bien sûr à la situation économique, à la reconstruction aussi tout simplement des bâtiments détruits, mais également à une sorte de, comment dirais-je, de mise en place d'institutions stabilisées. Or c'est ça qui va prendre du temps, mais je pense que c'est l'urgence malgré tout. Il y a un inconvénient hein, en effet, c'est que par rapport aux autres pays qui attendent depuis longtemps dans l'antichambre, accorder trop précipitamment le droit à l'Ukraine de rentrer pourrait créer en quelque sorte des accords. Hein, mais c'est au Conseil européen d'arbitrer ce problème. Parce qu'effectivement, l'Ukraine pourrait se réclamer d'une urgence compte tenu de sa situation. Avec en plus un autre inconvénient sur le plan géopolitique, c'est que Poutine va pas tarder à se manifester, il l'a d'ailleurs déjà fait. Si l'Ukraine arrive à être membre effectif de l'Union européenne, ça va créer une sorte de déséquilibre dans l'équilibre des forces. Et il va prendre ça comme une provocation, c'est évident. Surtout qu'à côté de ça, on se rend bien compte que les États-Unis sont bloqués pour l'instant dans l'aide à l'Ukraine pour des histoires de congrès américain qui, pour l'instant, donc, suspend l'aide. Voilà, donc, c'est... Il y a forcément, on l'a dit, dans l'agression de l'Ukraine par la Russie, une exemplarité mondiale, hein, ça touche à la planète.
Bien sûr, bien sûr. Et alors, vous disiez justement qu'il y a des pays en attente depuis un certain temps, justement, concernant cette entrée dans l'Union européenne. Peut-être, Sophie, pourquoi ça met autant de temps, même pour d'autres pays qui ne sont pas... Enfin, si, ils sont aussi certains en conflit, en fait, de guerre. Mais pourquoi une dizaine d'années avant de pouvoir entrer dans l'Union européenne ?
Il y a eu un élargissement qui s'est fait de façon... Sur la poussée de l'histoire, c'est il y a 20 ans. Oui. Là, c'est le bloc communiste qui, après l'effondrement de l'Est, a éprouvé le besoin de se rapprocher de l'Europe pour échapper à la tutelle de Moscou. Là, il y avait vraiment un rééquilibrage plus ou moins spontané. Ça n'a pas pris de temps. C'est-à-dire que l'élargissement a été... rappelez-vous, c'était donc tous les pays de l'ancien bloc de l'Est. Là c'est différent. On prend le temps de fixer des critères, et c'est sous la poussée des responsables de ces pays que ça peut s'accélérer. Mais c'est vrai, par exemple, que la Bulgarie a attendu 12 ans, la Pologne également, et voilà. On peut s'en étonner. Mais en même temps, il va falloir qu'on arrive à résoudre la question. À quel chiffre on met la barre ?
Oui, et puis c'est le temps de réponse aussi alors de ces pays, oui, aux critères. C'est oui, ça aussi, en fait, ça, la durée.
En plus. Mais lorsque Ursula von der Leyen, dans son discours, l'a dit, elle a envisagé vaguement une union qui s'élargirait à 30 et plus. Bon, ça reste un peu vague. Et puis, on sait très bien aussi que ceux qui ne sont pas tellement favorables à l'Europe, une des premières critiques qu'ils envoient aux partisans de l'Europe, c'est que, à force de grandir, on risque le déséquilibre et que finalement, la communauté culturelle dont se réclame l'Europe peut être mise à mal, être menacée si on continue à grandir. C'est un pari risqué. Hein. Déjà, on vous rappelait les débats qu'il y a eu il y a quelques années sur la demande que faisait Erdogan pour que la Turquie adhère. Cette demande est écartée, à mon sens, de façon justifiée. Parce que là, on avait vraiment une juxtaposition de civilisations qui n'avait rien à voir. Mais, encore une fois, c'est un débat qui reste ouvert.
Je vous propose une petite pause musicale. On revient tout à l'heure avec Instant Europe. Et on écoute maintenant The Fool de Jane.
Walking on the wire from Earth to Venus ground, playing with my balance, I'm not afraid to fall. A rose grows in outer space, I should have known better. A rain of fiery rocks, the sun up the dark.
Nous sommes de retour dans Instant Europe sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Je suis en compagnie de Sophie Ambroin, chargée de mission à la Maison de l'Europe en Mayenne. Michel Ferron, vous êtes également avec nous. Vous êtes l'ancien président de la Maison de l'Europe en Mayenne et actuellement vous êtes secrétaire général de la Fédération française des Maisons de l'Europe. Yulia Kulibabchuk, vous êtes une ancienne professeure d'anglais et d'allemand et plus récemment volontaire dans le cadre du Corps européen de solidarité à la Maison de l'Europe de Nîmes. On a abordé dans un premier temps un petit peu toutes les questions autour justement de cet élargissement de l'Union européenne et de cette adhésion de l'Ukraine. Et donc, Michel Ferron, vous vouliez revenir sur un point ?
Oui, le désaccord d'Orban illustre qu'il y a au sein des 27, sur des tas d'autres sujets, des dissensions. Là, c'est spectaculaire parce qu'il met son veto et que dans cette, avec la fameuse règle de l'unanimité, qui est remise en cause souvent et qui paralyse beaucoup de décisions, c'est-à-dire que le poids de cette réglementation fait qu'avec un veto d'un pays, on peut bloquer la législature. Ici, bien sûr, Orban en a joué. Et on s'indigne quand on est pro-européen de voir que lui, avec aussi parfois son partenaire de la Pologne, joue les mauvais élèves et que finalement, les sanctions à leur encontre ne sont pas toujours bien appliquées. Mais il y a eu par le passé aussi d'autres désaccords. Par exemple, au moment du vote du plan de relance suite au Covid, les 27 se sont affrontés sur la nécessité de l'adopter. Tout le monde n'était pas d'accord pour mettre en place cette aide aux pays défavorisés. Et on a vu apparaître le clan, ce qu'on appelle les frugaux, c'est-à-dire ceux qui ont une certaine frugalité, qui veulent garder de l'argent et qui ne sont pas très généreux, c'est pour caricaturer. Il y avait notamment l'Allemagne, et il y avait aussi les Pays-Bas, et c'est aussi des pays dans lesquels, justement, en politique intérieure, l'extrême droite progresse. Et là, on retrouve justement le lien avec les menaces que fait peser cette progression de l'extrême droite par rapport à l'avenir de l'Europe.
Et donc, vous le disiez, c'est là-dessus que je voulais en venir. Donc, on peut voir donc la montée de l'extrême droite, justement, dans différents pays européens. Quelle influence cela peut avoir, peut-être, sur le prochain scrutin des élections, justement, législatives européennes ?
Considérable et, à la limite, assez effrayant. Pour la première fois, à mon avis, si on compare avec 2019, le dernier scrutin, où c'est vrai, déjà, ça, le débat existait de la même manière. En France, tout au moins, si on suit l'actualité française, le scrutin du 9 juin prochain va se passer dans un contexte politicien exécrable. Tout est prêt, finalement, puisque même, y compris dans les affrontements qu'on a chez nous au Parlement sur des lois comme la récente loi sur l'immigration et les débats sur les étrangers, on sait très bien, et c'est ça qui est un paradoxe, et pour nous, Maison de l'Europe, qui sommes justement, qui en dehors du champ politique avons pour mission de défendre l'Europe, ça va être, c'est vraiment une énormité qu'il faut combattre. Quand on pense que, si on en croit les sondages, ceux qui risquent de l'emporter, c'est les fossoyeurs de l'Europe. Ceux qui sont là pour se présenter et, en quelque sorte, détruire l'Europe. C'est vraiment, sur le plan démocratique, incroyable. Enfin, si, c'est malheureusement, ça existe et c'est insupportable. Donc, en effet, tout se tient. Et dans la guerre de l'Ukraine, Poutine, Orban, face au monde de l'Occident, on voit très bien que les Ukrainiens représentent la victime toute trouvée pour les impérialistes qui veulent imposer un modèle de société. Et soutenir l'Europe, c'est soutenir la démocratie, comme le disait tout à l'heure Yulia, c'est soutenir l'état de droit. Et j'en veux pour preuve que c'était dans Ouest-France de mardi dernier, il y avait un excellent édito de Jean-Dominique Giuliani, qu'on connaît bien, nous, à la Maison d'Europe, qui est président de la Fondation Robert Schuman, qui développe cette idée que finalement, c'était avant le vote d'hier, qui déclarait que de toute façon, on n'a pas le choix. Ce qui se passe dans le monde, dit-il, est une véritable guerre pour les valeurs et le modèle de société, entre le droit et la force, entre la violence et le respect de la dignité de la personne. Ça a l'air de rappels théoriques et d'arguments moraux. Non, c'est bien là que se joue l'avenir du monde.
On est justement dans une banalisation de certains discours, de certains modes de pensée. Quel est le levier sur lequel il faut agir pour en fait...
Alors nous, au ras du terrain, et Sophie pourrait le dire autant que moi, dans une association comme la Maison de l'Europe, qui n'est pas un parti, encore une fois, nous, on lutte, c'est un grand mot, mais c'est quand même la réalité, auprès du public. On a la vocation de s'adresser aux Mayennais, on est une association départementale, face à l'écran de fumée, la poudre aux yeux et l'intox et les fake news qu'on fait circuler sur l'Europe, nous, plus modestement, on met en avant des réalités très concrètes. En gros, c'est quoi l'Europe pour vous dans la vie quotidienne ? Ce que vous avez dit, ce que a rappelé Yulia et ce qu'a expliqué Sophie tout à l'heure sur les corps européens de solidarité, moi je peux ajouter que du côté de notre association, on mesure l'intérêt de disposer dans l'association de jeunes qui arrivent d'un peu partout. Parce que je peux vous dire que quand on va avec elles, souvent des jeunes filles, rencontrer les jeunes notamment, c'est vraiment les ambassadrices de l'Europe. Elles ont un parcours en général de mobilité importante. La langue, très vite, disparaît comme obstacle parce qu'elles acquièrent un niveau de langue. Et ça, c'est la réalité. Enfin, Erasmus, les parents qui ont des enfants en Erasmus savent très bien que les histoires que raconte l'extrême droite sur les étrangers et compagnie, c'est une caricature. Donc, oui, c'est comme ça qu'on peut lutter, en partie. Mais on ne pourra pas grand-chose contre le rouleau compresseur. Voilà. Je dirais quand même qu'en 2019, face aux résultats nationaux, déjà l'abstention était très forte. On avait pu remarquer, nous, en Mayenne, qu'elle était moins forte qu'ailleurs. Et on s'était attribué, nous, la responsabilité de ce succès. Parce qu'on avait pas mal bossé, et on va encore le faire.
Donc l'idée est toujours de s'ouvrir aux autres cultures et de surtout pas se fermer. Alors, on a justement abordé ces programmes mobilité. C'est vraiment une ouverture sur l'autre.
Oui, c'est une dimension très importante que l'Union européenne, c'est aussi une communauté culturelle. Et alors évidemment, on rentre dans des considérations plus théoriques et abstraites, mais nous aussi, au niveau de la Maison de l'Europe en Mayenne, on met en place des actions culturelles à côté des actions plus traditionnelles, pour montrer que adhérer à l'Europe, c'est d'abord refuser les frontières, c'est d'abord aller à la rencontre des autres. Et ça, c'est pas des déclarations de Boy Scout, hein, c'est tout simplement des réalités qui... Les jeunes le savent bien, on s'enrichit au contact des autres, et c'est ça l'Europe, celle qui est capable d'organiser une mixité des culturelles, l'union de la diversité, enfin c'est la devise. Voilà. Et ça, évidemment, l'extrême droite ne supporte pas ce genre de discours. C'est le repli sur soi, c'est la xénophobie. Voilà pourquoi il faut continuer à se battre.
Et alors pourquoi ce discours aujourd'hui, justement, malgré tout, a un certain succès ? Il y a quand même quelques années, on ne pouvait pas tenir ces discours-là, mais aujourd'hui, malgré tout, est-ce que c'est le contexte mondial qui fait que malgré tout, ça atteint les gens ?
Le contexte mondial, je ne crois pas. En revanche, l'exploitation faite par ces groupes extrémistes et populistes des difficultés économiques dues, ou en tout cas prétendument dues, à l'afflux des étrangers, font qu'il y a une frilosité, un repli sur soi qui... C'est facile de faire de l'Europe le bouc émissaire de nos difficultés. Et là, la mécanique électorale va se mettre en place. Entre parenthèses, il y a quelque chose qui est encore plus scandaleux. Hein. Ces discours vont être tenus par des gens qui devraient être devant les tribunaux. Hein. C'est étonnant quand même, parce que Marine Le Pen et ses amis du Rassemblement National sont actuellement, font l'objet d'une condamnation pour le fameux détournement d'argent public en employant des assistants au service de leur parti. Si la justice française allait jusqu'au bout, ces responsables politiques seraient inéligibles. Mais enfin, je veux dire que on rêve là, parce que le système est vraiment très très compact. Mais moi, c'est ça qui par certains côtés m'écœure, la poudre aux yeux, le mensonge organisé. Voilà. Bon, il reste un espace. Il reste un espace. Le débat. Nous, on va organiser pour notre anniversaire, puisque nous avons déjà 30 ans. Un débat transpartisan le 20 janvier. C'est-à-dire que on va pas dire aux gens pour qui voter, c'est pas notre rôle. Mais d'abord de voter, parce que l'abstention est phénoménale. Personne ne se sent concerné par un scrutin pareil. Donc nous, on veut offrir aux Mayennais un débat de qualité pour qu'il y ait des occasions pour le public de s'interroger sur La véritable nature de l'Europe à partir de bilans réels.
De créer de l'échange, de poser ces questions aussi peut-être sans...
Bien évidemment, oui. Mais ça, on a toujours fait ça, nous, dans la Maison de l'Europe. On organise sur beaucoup de sujets des rencontres, des soirées débats, des conférences débats. Sur l'Ukraine notamment, on avait déjà organisé une réunion publique.
Et donc, ce sera le 20 janvier. Peut-être, vous pouvez nous donner des informations complémentaires plus précises à Sophie.
Oui, le 20 janvier, dès 10h, il y aura tous les comités de jumelage, enfin, tous les comités de jumelage, certains comités de jumelage mayennais. Il y aura aussi un focus sur l'Allemagne, parce que ça se déroulera pendant la semaine franco-allemande. Et des petits jeux, comme un rallye européen... qui permettra aussi de gagner quelques lots. Et à 17h, c'est le débat transpartisan.
Oui. Une dernière petite pause musicale. On va écouter Strange Fruits de Dominique, fils aimé.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves, blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south. The bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, so sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the cross to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun, for the sun to rise, for the trees to draw, the trees to draw. Strange and bitter cry, strange and bitter.
On est de retour dans l'émission Instant Europe sur l'autre radio. Je suis en compagnie de Sophie Envoin de la Maison de l'Europe en Mayenne, mais également de Michel Ferron, ancien président de la Maison de l'Europe en Mayenne et actuellement secrétaire général de la Fédération française des Maisons de l'Europe. Yulia Kulibabchouk, vous êtes également avec nous. Vous avez été récemment volontaire dans le cadre du Corps européen de solidarité à la Maison de l'Europe et de Nîmes. Et donc pour cette dernière partie d'émission, la prochaine fête de l'Europe organisée à Caen.
L'événement phare, ça sera le 25 mai à Caen, place du Pilori. Donc c'est la fête de l'Europe, c'est tous les ans. Hein. À chaque fois, on essaye de faire dans un territoire différent. L'année dernière, c'était à Laval. L'année d'avant, c'était à Château-Gontier. Et en amont de cette fête du 25 mai, on fera toute la semaine à Caen des animations, donc animations intergénérationnelles. On va aussi diffuser deux ciné-débats autour de films hongrois, puisque le pays à l'honneur cette année, c'est la Hongrie. Et voilà à peu près tout ce qu'on va faire. Il y a encore d'autres choses en préparation, mais il faut retenir que ça se passera à Caen et que le pays à l'honneur, ça sera la Hongrie.
Et alors, quelle est l'importance justement d'organiser annuellement ce type de fête, d'événement autour de l'Europe ?
Alors,
Oui, vas-y.
Il y a pour nous une certaine logique. Chaque année, d'abord sur le plan international, il y a une fête de l'Europe qui est fixée au 9 mai. On essaye chaque année de faire coïncider notre fête avec cette date ou les alentours. Parce que comme vient de l'expliquer Sophie pour Caen, mais comme les autres qui ont précédé, c'est la fête est le couronnement festif d'une manifestation qui s'étale sur une semaine. Mais qui en plus vient après des tas de réunions qui aboutissent toujours aux mêmes productions, à savoir qu'on veut aller, en changeant les villes, au plus près du territoire mayennais pour montrer d'abord qui on est, ce qu'on fait, mais surtout ce qu'est l'Europe. Et c'est étonnant de voir que ça fonctionne toujours admirablement bien, parce que on est loin des discours, des slogans, même s'il y a des débats, avec des activités ludiques souvent. On fait des animations, comme on dit, et ça, on sait faire. Hein. On a pour ça des salariés très, très, très compétentes, ainsi que du personnel et des bénévoles, surtout. Et en particulier, à Caen comme ailleurs, on va rencontrer les élus. C'est-à-dire que dès qu'une ville est choisie pour servir de lieu de Maison de l'Europe, on va en direction des élus du territoire. Là, c'est pas seulement Caen, c'est la communauté de communes du pays de Caen, à qui qu'on le rencontre pour proposer, disons, une formule, parce que, Sophie l'a dit, la Hongrie. Pourquoi la Hongrie ? C'est pas pour faire plaisir à Orban, hein, ça se voit pas. C'est parce qu'en fait, il y a un jumelage à Caen avec la Hongrie qui marche d'enfer depuis longtemps. Il y a aussi sur Caen, par exemple, on a un partenariat, un point Europe dont on n'a pas parlé encore, mais les points Europe, c'est ce qu'on a mis en place dans tout le département où on a des antennes d'information. Il y a une association, le Nul par ailleurs, qui travaille beaucoup avec ce jumelage de la Hongrie. Je ne pourrais pas te donner le nom de la ville parce qu'il est imprononçable, il est très long, mais ce sera l'occasion de mettre ce pays à l'honneur. Et puis je reviens sur les élus pour terminer sur autre chose. Nous, à la Maison de l'Europe, et moi je tiens beaucoup à cette dimension parce que j'étais élu local avant dans une autre vie, on a dans les 9 communes, dans les 9 com-com de département, des conventions de partenariat qu'on a mis en place et qui définissent à chaque fois un programme que l'on négocie avec la demande des gens, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent mettre en place, en retour de laquelle la communauté nous verse une subvention. C'est quand même évidemment un problème là aussi de finances. Et les élus sont justement les relais pour nous, les plus indiqués pour faire passer le message européen. Ils savent mieux que quiconque dans leur mairie en quoi l'Europe, ça peut les aider sur ces fameux fonds européens dont ils peuvent bénéficier pour des projets de la vie quotidienne de leurs concitoyens. Et à tel point que, comme on l'avait fait en 2019, on le fera pour 2024, on redéfinira notre convention avec l'AMF, qui est donc l'Association des maires de France, section départementale, pour envisager, c'est une idée que moi je vais reproposer à la Maison de l'Europe, parce que ça avait bien marché en 2019, pour redéfinir un appel commun élu Maison de l'Europe sur les élections européennes, avec le message habituel: votez, car l'Europe, ça vous concerne. Et ce partenariat élu Maison de l'Europe, ça marche très bien et ça nous paraît indispensable.
Yulia, vous vouliez dire quelque chose ?
Oui, je voudrais ajouter les mots de Sophie et de Michel, parce que moi, cette année, j'ai eu un événement, Café Multiculti, c'était jour de l'Europe. J'ai préparé la présentation avec tous les valeurs de l'Union européenne, d'Europe en général, avec le drapeau, les pays, les langues. Mais aussi, de plus, je veux dire que quand j'étais à l'école, et c'était il y a 15 ans, nous avons célébré les jours d'Europe ma ville natale, ça s'appelle Vinnytsia. Et nous avons décoré tous les arbres avec les guirlandes de tous les pays d'Europe. Nous avons goûté les plats traditionnels, mais aussi nous avons discuté au sujet de l'Europe avec tout le monde, surtout la ville avec les drapeaux, et c'était vraiment un événement très important pour nous, et nous avons célébré chaque année. Et c'était pas juste après la guerre, mais aussi avant. C'est pourquoi, oui, l'Europe était toujours très actuelle pour nous.
L'idée de vous retrouver, de fédérer autour de ces valeurs existait déjà, oui, donc avant l'agression de la Russie envers votre pays, l'Ukraine.
Alors, je peux dire que après l'année de l'Union soviétique, nous avons commencé suivre tous les valeurs de l'Europe, et nous avons la discussion pour l'adhésion. Mais la Russie a pensé de retourner l'Union soviétique. C'est pourquoi, oui, nous avons eu des problèmes pendant l'année, et quand nous avons vraiment décidé de changer quelque chose, vous avez vu, nous avons la guerre.
Et donc, oui, l'important de faire rayonner les valeurs de l'Europe au sein même de nos pays, de rappeler ces valeurs via la Maison de l'Europe, via les élus, on le disait tout à l'heure, mais même au-delà des pays membres de l'Union européenne, il est important d'être un modèle aussi peut-être pour les pays extérieurs. Michel ?
Oui, un modèle et en même temps une valeur de témoignage et d'exemple. De toute façon, rien n'est tout à fait perdu sur cette question de l'adhésion, y compris en dépit du blocage sur l'aide des 50 milliards, puisque un sommet européen est prévu en janvier qui rediscutera de ce problème. Et d'autant que jusqu'ici, je crois avoir compris que déjà l'aide militaire mensuelle de 10 milliards avait déjà été votée. C'était déjà acté. Là, c'était une nouvelle injection d'un plus. Mais le débat va rester permanent. Et c'est, Viktor Orban ne va pas à lui tout seul paralyser l'Europe. C'est ça que je veux dire. Même si... on ne peut pas s'empêcher de faire un rapprochement. Hier, Poutine faisait sa conférence de presse fleuve depuis près de 5 heures. Son allié au sein de l'Europe, qui est Viktor Orban, ça a dû fonctionner entre eux. Hein. Je veux dire que, voilà, y a eu des consignes, il y a eu en tout cas des... C'est lié, bien évidemment. Mais il faut souhaiter que la raison l'emporte et que surtout, mais la marche est haute, hein, qu'on arrive à vaincre... le scepticisme pour nous des Français, pour nous encore plus des Mayennais, il peut exister sur l'avenir de l'Europe. On est toujours dans ce registre. Non, c'est pas si loin que ça. C'est tout près de chez vous, mais il y a beaucoup à faire. Par exemple, ne serait-ce que arriver à démonter le mécanisme des institutions. On gagnerait déjà beaucoup de crédibilité si les institutions européennes étaient moins opaques. Faut connaître que c'est pas simple à expliquer et ça paraît lointain.
Et alors la Maison de l'Europe, justement, vous êtes ressource oui. pour toute personne qui se pose oui. des questions, pour toute personne qui a du mal à...
À la fois ressource documentaire, de débat, on organise des conférences sur le sujet. Moi, je suis intervenu sur les institutions et on est partenaire de plusieurs associations. L'UTL de la Haute-Mayenne qui organise des débats d'actualité, l'ORPAL à Laval également. Donc oui, on est au service de ces... On a dans l'association des gens qui peuvent intervenir. Et on a aussi surtout des capacités d'accueil avec nos salariés et nos documentations qui sont disponibles au public.
Et alors peut-être qu'on peut rappeler même où vous retrouvez dans Laval.
Au 38 rue Noémie Amar, tout près des archives.
Ben, merci à tous. Merci à vous d'avoir été à mes côtés au studio de l'autre radio à Laval pour cette émission Instant Europe. Merci donc Sophie Envoin d'avoir été avec nous. Merci Michel Ferron et merci Yulia Koulibabchouk d'avoir participé à cette émission.
Merci.
Et merci à tous.
L'émission Instant Europe est terminée pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été à notre écoute. On vous souhaite une bonne journée sur les ondes de l'autre radio.
Instant Europe.
L'émission proposée par la Maison de l'Europe en Mayenne.